Revue de presse de l'April, semaine 20, année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
On a un programme chargé cette semaine.
Et oui, on a 9 articles principaux et une vingtaine d'articles en tout. On va vous parler cette fois-ci donc de licence libre, de l'école et du libre, les inventions, donc un article de Stiglitz, c'est intéressant, l'État et ses dépenses, la contre-histoire de l'Internet sur Arte, l'open data et Obama, les hommes du libre, le rapport Lescure et pour finir, une petite pub pour Framabook, puisque c'est de ça dont on parlera.
The Edge Open, si on arrêtait d'utiliser les licences libres, entre parenthèses, au profit du domaine public, un article de Glyn Moody, donc c'est une traduction de Framablog.
Un gros troll, hein, c'est rien d'autre.
Des choses tout à fait justes et intéressantes dans l'article, qui propose en gros d'arrêter le copyleft. Ce principe qui consiste à obliger un contributeur à redistribuer les modifications qu'il a faites, donc pour des licences libres non copyleft, voire du domaine public.
Attends, si on arrête le copyleft, on arrête le libre quasiment. C'est la mort. Je veux dire, c'est Stallman qui l'a mis en place il y a 30 ans. Qu'est-ce qui nous reste contre le droit d'auteur ?
L'argumentation de l'auteur de cet article, c'est que les principes du libre sont rentrés dans les mœurs et que du coup, ces principes de copyleft et les licences correspondantes ont fait leur usage et qu'aujourd'hui, elles génèrent plus de complexité qu'autre chose et qu'on a bien compris que les principes du libre permettaient d'être plus efficaces, qu'il y avait une sorte de sélection par l'efficacité, et que ceux qui rentraient pas dans le système, de toute façon, n'y arriveraient pas.
Ouais, c'est de l'open source.
Bah oui, c'est quand même très orienté open source, et avec ce côté un peu bisounours, en disant « ouais, ça va marcher maintenant ». Il y a cette expression d'enjeu horreur qui est « c'est rentré dans les gènes », tu vois, comme si c'était un effet naturel, et bon, je suis pas tout à fait convaincu par ça. Il évoque notamment cette question du cloud, mais toujours du côté de l'informatique, en disant « puisque dans la GPL, la licence copyleft classique du logiciel libre, on ne redistribue que le logiciel qu'on diffuse, et qu'évidemment, quand on a un service hébergé, on ne diffuse pas le logiciel, donc ça pose des problèmes, il y a des licences un peu spécifiques qui ont été faites ». Donc il parle de ça, mais il ne parle pas du contrôle de l'informatique et du contrôle des données des utilisateurs, ça l'intéresse pas.
Bon, je parcours un peu l'article, je vois la fin, il cite et il reprend des propos de Stallman, hein, donc, qui effectivement explique que s'il n'y avait pas le droit d'auteur, on n'aurait pas besoin des licences libres, puisque tout serait libre par défaut. Bon, mais je constate, hein, c'est pas le cas, donc pour moi, on a encore besoin du copyleft. Je rajouterai, ça c'est dans les commentaires, dans le droit d'auteur français, on ne peut pas volontairement mettre quelque chose dans le domaine public, le droit d'auteur, comment on pourrait dire,
hein. Je crois qu'il est inaliénable, ou quelque chose comme ça. En tout cas, l'article est quand même intéressant, hein. Il troll, mais il est pas stupide et il soulève des vraies questions. PC Impact, l'utilisation prioritaire du libre à l'école poussée en commission au Sénat, un article de Xavier Berne.
Alors c'est quoi comme commission ? C'est parce qu'il y a eu des trucs qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale, donc là ça passe sur la suite, c'est la commission...
Le Sénat, oui.
Commission de la culture du Sénat.
Et c'est plutôt engageant. Alors, c'est en cours de discussion, hein, donc il n'y a rien d'arrêté pour le moment, mais ce qui se discute est assez intéressant. Ça reprend des éléments qu'on a en place depuis un bon moment, notamment avec une approche de l'informatique à l'école très centrée sur des usages. Donc, on n'est pas là pour apprendre l'informatique, mais pour apprendre à bien se comporter sur Internet, à ne pas pirater, etc.
Bouh, c'est pas bien de pirater.
Voilà, donc il n'y a pas de révolution fondamentale là-dessus, mais en tout cas, dans les discussions, manifestement, il y a une demande de choses plus précises, il y a des formulations qui sont sorties du Parlement et qui semblent bien trop vagues et pas assez précises aux sénateurs, et il y a quand même une mention de logiciel libre à la fin.
Oui, hein, si je comprends bien, ils veulent mettre en avant du libre et des formats ouverts pour que, par exemple, les professeurs puissent réutiliser des choses, se les partager, et que les administrations, l'éducation, soient plus efficaces et rattrapent son retard sur le numérique, parce qu'il semblerait qu'on soit pas très très bon de ce point de vue-là en Europe.
Et un des arguments qui est mis en avant et qui est intéressant, parce que on le dit, hein, très souvent, c'est l'argument du coût qui revient. Et là, il y a cette question de souplesse et de rapidité. La citation est la suivante. Donc, il s'agit de permettre un développement rapide et aisé de l'utilisation des outils et ressources numériques par les enseignants. Donc, il y a vraiment ce côté souplesse, rapidité, facilité qui est lié au libre. Et c'est sympa et intéressant de voir que c'est ça qui est retenu. Les Échos, protéger ses inventions, oui, mais pas à n'importe quel prix. Un article de Joseph Stiglitz.
Donc... Stiglitz.
Alors, ce n'est pas Stigler dont on parle régulièrement dans la revue de presse.
Non, mais c'est même mieux, là, pour le coup.
Alors, c'est mieux, c'est pas pareil.
Ah ouais, mais là, attends, ça a un impact phénoménal.
Stiglitz est prix quasi Nobel d'économie, puisqu'il n'y a pas de vrai prix Nobel d'économie.
Ouais,
c'est
ouais.
quelqu'un qui s'est fait connaître et qui a vraiment marqué les esprits sur l'idée de mesurer le bien-être et en gros d'avoir une approche économique dont l'étalon soit le bien-être des individus et le fait qu'on vive bien dans un pays. Donc vraiment une approche assez intéressante de l'économie et qui tranche avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et là, il se prononce sur la question de la propriété intellectuelle.
Et donc, qu'est-ce qu'il dit, si ce n'est que j'espère bien que la propriété intellectuelle, c'est pas top, quoi.
Alors, il n'est pas rigoureusement contre, mais il revient sur toute une série de systèmes de brevetabilité du vivant, mais également des logiciels, et en disant que c'est des freins pour l'innovation. Il a un exemple qui n'est pas de l'informatique, mais qui est tout à fait frappant, d'une entreprise qui s'appelle Myriad, une entreprise américaine, et qui a breveté un gène, donc qui est un gène qui prédispose à avoir le cancer. Et ils ont toute une bataille juridique pour que les gens qui veulent se tester pour savoir s'ils sont gènes-là, soient obligés de passer par eux. Et donc, une sorte de frein terrible qui a des conséquences sur la santé des gens, enfin, c'est juste complètement incroyable, et ils sont en train de se défendre là-dessus. Donc, c'est l'exemple qu'il choisit, il en a d'autres, et c'est des choses qu'on avance depuis longtemps hein, sur la question des brevets logiciels. C'est que voilà, ça freine les éléments. Et autre élément qu'il ajoute qui est intéressant, c'est que ça favorise la corruption.
Oui, hein, et là, moi, j'apprécie énormément le côté grosse tête mondialement reconnue qui abonde dans notre sens. Le droit d'auteur, les brevets, ils sont trop forts, trop longs, ils couvrent trop de choses. Et breveter des gènes, c'est juste débile.
Numérama, l'État a dépensé 1,5 milliard d'euros en 5 ans pour des logiciels propriétaires. Un article de Julien L.
Ouais, ça y est. Alors, on a enfin un nombre, un chiffre, quelque chose qu'on peut mettre sur la facture.
Oui, c'était une question parlementaire qu'on a évoquée ici.
Je crois même qu'il y en
fois.
Avait deux. Hein. J'ai vu passer des trucs. Il y avait deux questions parlementaires. Une en particulier sur Office et l'autre sur les logiciels propriétaires globalement.
Et on attendait la réponse avec impatience. Elle arrive. 1,5 milliard sur 5 ans. C'est une somme rondelette. A priori, alors on ne connaît pas exactement le périmètre, mais a priori, c'est de l'administration centrale. Hein. Ça ne touche pas les collectivités locales. Après ça, on peut se demander dans tout cet argent combien vont par exemple à Microsoft, parce qu'évidemment il y a des entreprises françaises qui font du propriétaire, donc qui vont pouvoir toucher cet argent, le redistribuer à leurs salariés et on va alimenter avec l'argent de l'État l'économie locale.
Alors pour Microsoft,
même si les propriétaires,
je peux rapidement répondre, hein, ça doit être 60 millions d'euros par an qui sont évalués pour l'acquisition et la maintenance, juste pour l'État, hein, les services de l'État. Et je rajouterais que Microsoft et Steve Ballmer avaient reçu des médailles de Nicolas Sarkozy. Et oui, hein, y a rien de tel que de reconnaître l'apport d'une entreprise étrangère à notre bien-être, n'est-ce pas ? Voilà. Et surtout à nous emprunter un peu d'argent.
Et on rappelle que Microsoft, mais comme beaucoup d'autres entreprises informatiques, ont des montages assez sophistiqués pour ne payer le moins d'impôts possible chez nous.
Oui, on rappellera le système Open Bar où les militaires sont en train d'acheter du Microsoft et ils passent par la filiale irlandaise, ce qui est un non-sens total.
Je ne sais pas si cet article ou un autre qui citait le cas de la gendarmerie qui était un exemple d'utilisation de logiciels libres d'économie. Donc il y a double effet, il y a cette question de l'argent payé en plus, sachant qu'on pourrait faire moins cher avec du libre. Et il y a cette question de où va l'argent quand il part vers l'Irlande avec ses conditions financières et d'impôts plus favorables. Et ben, on préférait que ce soit dans la poche d'entreprises françaises qui embauchent des gens en France et qui fassent tourner l'économie. En tout cas, bon voilà, c'est très instructif. Et on espère que cette affaire va avoir des conséquences. On attend ce que ça donne. Le Nouvel Observateur, une contre-histoire de l'Internet sur Arte, le docu qui réhabilite enfin les hackers. Une interview de Jérémy Zimmermann, de
voilà,
la Quadrature du Net.
Donc c'est recueilli par Hélène Decommer. Je ne suis pas sûr comment ça s'est goupillé. L'article est plus ou moins court, hein, c'est surtout descriptif
oui, c'est
une de documentaire.
Hein. Documentaire. Voilà, qui rappelle que hacker, c'est pas un vilain pirate boutonneux qui veut tout péter, mais au contraire, des gens qui ont ce côté créatif et technique et qui sont là pour construire, hein, et qui ont très largement contribué à la construction d'Internet.
On pense toujours à Internet, c'est le DARPA et l'armée américaine. C'est vrai, hein, ils ont été importants là-dedans. Mais la construction autour de tout ça, c'est vraiment les hackers qui ont fait l'essentiel. Et encore aujourd'hui, hein, et le libre est largement l'héritier de cette façon de travailler, de penser.
Voilà, donc allez voir ce documentaire. Je crois que sur Arte, les programmes sont visibles pendant une semaine sur Internet. Donc ne vous privez pas. Le MAGA-IT, l'administration Obama structure officiellement sa politique publique liée à l'open data. Un article de Cyril Chausson.
C'est pas la première fois qu'on parle d'open data et des Américains, mais là, bah, ils mettent une brique supplémentaire à leur édifice.
Oui, ils disent même qu'ils mettent les bouchées doubles et qu'en fait, voilà, ils y vont à fond, qu'ils refont un portail tout entier avec des consignes express pour toutes les administrations et ils se lancent dedans à fond, quoi.
Alors l'open data et les administrations, ça veut dire quoi en gros ?
Ben, ça veut dire qu'il y a toute une série de données qui sont gérées par des administrations qui vont être publiques. Donc on va pouvoir les télécharger, les récupérer. Alors il faut les organiser pour que chacun puisse retrouver ce dont il a besoin. Il faut s'assurer qu'elles soient là dans des formats qu'on puisse lire à temps. Et voilà, il faut aussi s'assurer qu'on ne dévoile pas des informations confidentielles qui pourraient être dangereuses ou des informations personnelles. Et bon, bah super quoi. En tout cas, ça montre que les États-Unis, sachant que cet organisme avait un peu la tête sur le bio à une époque sur des questions de coupes budgétaires, bah, ont fait le choix, au contraire, de se lancer dedans à fond. The Edge Open, les hommes du libre ne sont pas tous des connards. Donc un article traduit et écrit par le collectif féminin de la communauté Perle, et donc une traduction de Framablog.
Et oui, hein, il nous apporte pas mal d'articles vraiment intéressants du monde anglophone. Et là, on parle des hommes en mal encore.
Et non, c'est un petit peu un contre-pied à l'article de Marlar. Donc c'est une position prise par un groupe de femmes. Hein, Perle, c'est un langage de programmation, donc des filles qui sont dans l'informatique et qui font pas semblant.
Et c'est instamment technique. Hein, Perle, c'est pas très très simple.
Voilà, donc l'article est rigolo et intéressant. Elles prennent finalement des positions d'assez bon sens en disant que bah, des connards, il y en a partout, y compris dans l'informatique. Qu'elles ont le sentiment qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. Et que comme elles sont minoritaires, forcément, elles en rencontrent. Et que après, bah, quand on n'est pas en train de bosser, effectivement, il peut y avoir des sympathies, des relations de séduction, et que tout ça, ça fait partie de la vie, et que c'est pas parce qu'on est dans le domaine de l'informatique qu'il faut s'abstenir et qu'elles se sentent pas agressées quand ça arrive.
Bon, il faut avouer quand même, hein, il faut faire attention à tous ces problèmes de minorité, parce qu'elles sont une minorité dans nos groupes. Pas que dans ces groupes-là, j'en ai peur, hein. En politique c'est pas très différent, donc faut les accueillir et il faut être bienveillant.
Écran, rapport Lescure, pour, contre, un article de Camille Gévaudan.
T'as oublié un contre, hein. Il y en avait plusieurs. Hein.
Je suis absolument confus.
Donc le rapport Lescure, ça a fait vachement jaser cette semaine, il y a plein d'articles qui sont parus dessus, l'April est cité, il y a les entreprises qui sont citées, les ayants droit, les producteurs... Enfin, ça remue énormément.
Voilà, et cet article est très sympa parce qu'en gros, elle est allée prendre les positions de différents acteurs, dont l'April, mais également la Quadrature, le Snap, enfin, un peu tous les côtés, et elle a fait un paragraphe pour chacune des structures pour voir quelles sont les positions.
Donc, t'as quoi ? Les entrepreneurs de l'électronique, ils sont pour, ils sont contre ?
Ah, ils sont rigoureusement contre et ils utilisent un langage assez fleuri, c'est assez rigolo.
Oui, hein, je crois qu'ils considèrent qu'ils se sont pris des pains dans la gueule. Voilà. C'est la multiplication des pains, donc ils sont pas enchantés. Donc, il y a les ayants droit ?
Oui, enfin, après ça, c'est varié. La Quadrature est plutôt contre en disant que bah, c'est toujours du répressif. Et puis, la position de l'April, quand même, où on est évidemment centré sur la question de l'informatique libre.
Et puis, des DRM, il me semble.
Et donc, au travers des DRM, puisque ce qu'on trouve un peu bizarre, c'est que les effets néfastes des DRM sont décrits dans le rapport. Mais à aucun moment il est envisagé de les supprimer ou de se garantir contre ces effets-là, ce qui est un peu bizarre.
Moi je remarque aussi la réaction de Bloch, qui est assez important au niveau de l'Assemblée.
Bloch c'est
Député PS, hein, et responsable de la commission des affaires culturelles.
Voilà, donc, qui connaît très bien la question du livre et ces questions-là.
Et lui il a l'air de dire, voilà, peut-être qu'il faudrait réfléchir à un usage non marchand qui soit libre et autorisé.
Voilà, le reconnaître l'usage non marchand, et donc ça c'est une position intéressante. Qui casse complètement les positions de guerre face à face, où finalement il n'y a que cette partie marchande qui compte.
Donc on espère que ça va avancer. En attendant, l'Adopi a l'air morte, et ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais il y a une réaction de l'Adopi, bon, qui devait savoir de toute façon qu'ils sont foutus, hein, mais l'idée c'est que le CSA fasse la même chose, donc que ça s'appelle Adopi ou CSA, ça ne change pas grand-chose.
Espèce de négative.
Baf.
Allez, la suite.
AFJV, l'influence du logiciel libre dans l'histoire du jeu vidéo, un article de Damien Djaouti.
Donc j'ai regardé, je crois que c'est un site qui parle de jeux vidéo hein, globalement, donc c'est pertinent. Et là, ils mettent en avant un Framabook.
Et donc l'auteur de l'article est allé reprendre des passages du livre, parler un petit peu de ce qui se passe. Ça parle de jeux vidéo, ça parle de libre. Et ouais, ça met en avant un Framabook, c'est ça, c'est bien.
Voilà, si vous voulez connaître les petites histoires notamment, c'est assez amusant, il semblerait. Moi, ce que je remarque, il y a plein de livres qui sont vraiment pas mal. Allez les télécharger, puisqu'ils sont partagés librement et ils sont construits librement par la communauté. Encore une bonne initiative de Framasoft, on applaudit.
Voilà, vous pouvez les avoir sous format papier parce qu'ils sont quand même imprimés et c'est quand même vachement plus sympa de pouvoir lire un livre en papier.
Bon, sur ce, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, salut tout le monde.